aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide en votre compagnie. Ravi de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Les titres en ce mercredi 24 octobre 2018. Aux États-Unis, Hillary Clinton, Barack Obama et la chaîne CNN visés par des colis potentiellement explosifs en pleine campagne électorale. Le prince héritier saoudien qualifie d'incident hideux le meurtre de Jamal Khashoggi.
Les premiers jours, l'Arabie Saoudite avait totalement nié, mais la Turquie a poussé en révélant progressivement des faits.
Refus du pouvoir burundais de prendre part au dernier round du dialogue de sortie de crise à Arusha. En RD Congo, une marche de l'opposition contre la machine à voter autorisée à Kinshasa pour vendredi. Un rapport de l'ONU dénonce les rapes et viols au Soudan du Sud, les forces gouvernementales et rebelles montrées du doigt. Et puis, comme à l'accoutumée, vos rubriques économiques et sportives à venir dans 10 minutes. Le chef républicain du Sénat américain a dénoncé ce mercredi des actes de terrorisme intérieur après l'envoi de colis potentiellement explosifs à l'ex-président démocrate Barack Obama, à la candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton, ainsi qu'à la chaîne CNN. Une nouvelle qui continue d'évoluer, Eric Manirakiza.
Ces colis potentiellement explosifs visaient l'ancien président Barack Obama, l'ex-secrétaire d'État démocrate Hillary Clinton, l'élu au Congrès américain et ex-présidente du Comité national du Parti démocrate, Debbie Wasserman Schultz, Eric Holder, ex-ministre de la Justice sous l'administration Obama, John Bremen, ex-directeur de la CIA sous Obama, et le siège de la chaîne d'information CNN. Deux jours auparavant, une bombe artisanale a été retrouvée chez le financier George Soros, autre démocrate. Aucun des colis n'est parvenu à ses destinataires, dont la vie n'a pas été mise en danger. Personne n'a encore revendiqué. Ces actes terrifiants sont ignobles. Les représentants devront répondre de leurs actes devant la justice, a indiqué Sarah Sanders, porte-parole du président Donald Trump. Le chef républicain du Sénat américain a dénoncé des actes de terrorisme intérieur. Mitch McConnell a remercié les forces de l'ordre et les services postaux qui protègent les dirigeants et personnalités publiques face à de tels actes inadmissibles. Ces informations sur des colis suspects en série surviennent alors que les États-Unis sont en pleine campagne pour les élections du 6 novembre. Les démocrates espèrent reprendre le contrôle du Congrès américain.
Le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed ben Salman, qualifie d'incident hideux le meurtre de journaliste et opposant saoudien Jamal Khashoggi au consulat du royaume à Istanbul. S'exprimant lors d'un forum international sur l'investissement à Riyad aujourd'hui, l'homme fort de l'Arabie Saoudite a estimé qu'il n'y aurait pas de rupture des liens avec la Turquie. Il s'agit de ses premières déclarations publiques depuis la disparition le 2 octobre dernier de Jamal Khashoggi. La présidence turque indique que le président Recep Tayyip Erdogan et Mohammed ben Salman ont discuté ce mercredi des efforts communs à mettre en œuvre pour élucider le meurtre de Khashoggi, un journaliste critique du prince héritier qui vivait depuis un an aux États-Unis et écrivait des chroniques pour le Washington Post. L'Arabie Saoudite avait d'abord affirmé que Khashoggi était parti librement après s'être rendu au consulat pour des démarches administratives en vue de son mariage avec une Turque. Avec la disparition internationale, le royaume a admis samedi dernier qu'il était mort dans le consulat, évoquant un décès à la suite d'une rixe. Riyad a annoncé des arrestations et des limogeages à la tête des services de renseignement. Des responsables saoudiens ont affirmé que le prince Mohammed n'avait pas été informé de l'opération contre Khashoggi. Nous y reviendrons un peu plus tard dans la tranche magazine.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans l'actualité africaine, le gouvernement du Burundi n'a pas fait le déplacement à Arusha, en Tanzanie, où devaient débuter aujourd'hui des négociations pour sortir le pays de la crise. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
À Arusha, les pourparlers dits de la dernière chance n'auront pas lieu. Ces discussions avaient pour objectif l'organisation d'élections inclusives en 2020 au Burundi. Le président Pierre Nkurunziza a déjà affirmé qu'il ne serait pas candidat. C'est sur son compte Twitter que le gouvernement burundais a annoncé sa non-participation à ces discussions, demandant le report de cette cinquième session. Le porte-parole du gouvernement, Prosper Ntahorwamiyeh, a indiqué à VOA Afrique que Bujumbura a demandé des précisions sur les personnes qui prendront part à cette session, qui devait être celle de la signature de la feuille de route. Il a précisé que les autorités burundaises attendent la réponse du facilitateur Benjamin Mkapa, ancien président tanzanien. Seule une vingtaine de leaders de l'opposition et de la société civile sont présents à Arusha, dont Anice Niyongabo, secrétaire général du CNARED. Pour lui, cette absence démontre que le pouvoir burundais n'a jamais voulu négocier pour sortir le Burundi de la crise.
La mairie de Kinshasa a autorisé une marche de l'opposition prévue ce vendredi pour exiger l'abandon de l'utilisation de machines à voter à 2 mois des élections en République démocratique du Congo. C'est du moins ce qu'affirme l'opposant Vital Kamerhe, un des 21 candidats à la présidentielle prévue pour le 23 décembre prochain. D'après lui, l'hôtel de ville de Kinshasa a convoqué ce mercredi une séance de travail pour des dispositions pratiques de sécurisation de la marche. Une réunion des ténors de l'opposition congolaise est annoncée ce mercredi et jeudi à Johannesburg, en Afrique du Sud. La désignation d'un candidat commun au scrutin est l'un des principaux points à l'ordre du jour. Au Cameroun, l'avocat Akere Mouna, qui avait retiré sa candidature à la présidentielle au profit de l'opposant Maurice Kamto, a été condamné à 3 ans de prison avec sursis pour faux et usage de faux au lendemain de la proclamation des résultats du scrutin. Un tribunal de Yaoundé a jugé Akere Mouna également coupable de dissimulation de procédure dans le cadre d'une affaire de gestion de l'héritage familial. En Guinée, au moins 30 personnes ont été blessées ce mercredi à Labé, dans le centre du pays, lors de heurts entre les forces de l'ordre et des militants de l'opposition qui protestaient contre le tir ayant touché hier le véhicule de leur chef de file. Des ténors de l'opposition guinéenne ont exprimé ce mercredi leur indignation au lendemain de cet incident. Ils dénoncent une tentative d'assassinat par les forces de l'ordre qui ont formellement démenti. C'est Lou Dalain Diallo, leader de l'opposition, se rendait hier à une manifestation interdite par le pouvoir lorsque son convoi a été bloqué par les forces de l'ordre. Sa voiture, dit-il, a été alors prise pour cible. Au Burkina Faso, un couvre-feu a été décrété à Djibo après une attaque contre la gendarmerie le 18 octobre dernier. C'est la deuxième grande ville du nord du pays et le chef-lieu de la province du Soum. L'attaque a fait un blessé et d'importants dégâts matériels. Les assaillants ont également libéré plusieurs dizaines de personnes gardées à vue. La population vit dans la psychose depuis cette première attaque dans la ville qui abrite un groupement des forces antiterroristes. Au moins 50 personnes ont été tuées depuis hier dans des combats interclaniques dans le nord de la Somalie, un bilan très élevé dans une région habituée à de telles violences. Ces affrontements ont commencé autour de villages isolés de la région de Soul, revendiqués par la République autoproclamée du Somaliland et l'État semi-autonome du Puntland entre sous-groupes du clan des Darod. Le gouvernement fédéral de Mogadiscio a appelé à un cessez-le-feu. Le président et le Premier ministre demandent aux notables traditionnels et religieux locaux d'intervenir pour faire cesser le carnage, selon un communiqué. Les Nations Unies accusent les forces gouvernementales et les rebelles au Soudan du Sud d'enlèvements et de viols de centaines de femmes et de jeunes filles. C'est ce que révèle une enquête menée cette année. Le point avec Abdourahman Zia.
Un rapport de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, MINUS, révèle que plusieurs abus ont été commis sur des enfants et des femmes. Le document renvoie dos à dos l'armée régulière et les rebelles de l'ex-vice-président Riek Machar. Selon les Nations Unies, ces abus pourraient tomber dans la catégorie des crimes de guerre. Des filles âgées de 12 ans seulement sont choisies comme épouses pour les militaires. Elles doivent défiler devant eux et les soldats choisissent. Elles sont évidemment violées et soumises à l'esclavage sexuel, peut-on lire dans le document. L'armée gouvernementale a catégoriquement rejeté ces accusations. Un porte-parole de la rébellion a de son côté promis d'enquêter. Le rapport s'appuie sur une enquête menée entre avril et août dernier dans le sud-ouest du pays, en proie à la guerre civile depuis 2013. Le mois dernier, une cour martiale avait lourdement condamné 10 soldats reconnus coupables des viols de 5 travailleuses humanitaires.
L'Assemblée nationale algérienne a élu son nouveau président aujourd'hui, mais le sortant se proclame légalement toujours en fonction, ce qui laisse à craindre un possible imbroglio institutionnel. Le point avec Ekia Badou.
Mohamed Bouchareb, 47 ans, a été élu sans surprise président de l'Assemblée populaire nationale avec 320 voix et une abstention. Il était jusqu'ici chef du groupe parlementaire du Front de Libération Nationale, parti du chef de l'État Abdelaziz Bouteflika, qui détient 161 des 462 sièges à la Chambre basse. Unique candidat, il était également soutenu par les 100 députés du Rassemblement National Démocratique, du Premier ministre et par ceux de deux autres partis de la majorité présidentielle. De son côté, l'opposition a boycotté la séance. Le président sortant, Saïd Bouadja, 80 ans, lui-même membre du FLN, a martelé qu'il reste et demeure le président légal et légitime de l'Assemblée et a dénoncé une atteinte à l'état de droit, à la séparation des pouvoirs et au respect des institutions. Il est accusé de mauvaise gestion. 5 partis de la majorité, dont le FLN et le RND, réclament en vain depuis fin septembre sa démission. L'opposition, quant à elle, a dénoncé une lutte politique entre clans du pouvoir et une atteinte aux institutions.
Voilà pour les nouvelles qui dominent l'actualité africaine et mondiale là, ce soir. Un condensé des nouvelles économiques en Afrique, il est l'heure de la Minute Éco avec Nanit Talani.
Le Sénégal reçoit des Nations Unies 574 millions de dollars dans le cadre de l'accord du plan cadre pour l'assistance au développement. Dakar va investir dans plusieurs secteurs, la création d'opportunités pour la croissance inclusive et durable, l'amélioration de l'accès des populations les plus vulnérables aux services sociaux de qualité, le renforcement du progrès de la gouvernance inclusive et d'un état de droit. Le gouvernement sud-africain va octroyer à la compagnie aérienne South African Airways près de 350 millions de dollars pour éponger une partie des dettes de la société. Le Trésor sud-africain a révélé que l'entreprise devait rembourser 986 millions de dollars d'ici mars prochain. Ce fardeau empêche de plus en plus le transporteur aérien de poursuivre ses activités. Les fonds destinés au nouveau financement proviendront d'une réserve pour les éventualités et de fonds non dépensés issus d'autres ministères du gouvernement. Ici aux États-Unis, le jackpot record de la loterie américaine Mega Millions est d'une valeur de 1,6 milliard de dollars. C'est le plus gros pactole jamais gagné dans le monde. Le ticket gagnant de ce mardi a été vendu en Caroline du Sud. L'heureux gagnant peut recevoir un versement sur 29 ans ou toucher immédiatement une somme de 913 millions de dollars. 36 tickets auront également droit au second prix d'un million de dollars chacun et près de 16 millions de tickets ont gagné au moins quelques dollars.
La Minute Économie et nous accueillons Yacouba Ouedraogo pour les sports. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jacques et bonsoir à tous.
Les demi-finales retour de la Coupe CAF se jouent ce soir.
Oui Jacques, l'AS Vita Club mène présentement 2-0 au stade des Martyrs devant les Égyptiens d'Al Masry. Eddy Omemo Ngoyi a ouvert le score dès la 16e minute de jeu avant de revenir à la charge à la 39e pour son doublé. Les Congolais sont en train de filer tout droit vers la finale de la 15e édition de la Coupe CAF. Les deux équipes s'étaient neutralisées sur le score vierge de 0 but partout au match aller. Juste après ce match, battu à l'aller au Nigeria sur le score d'un but à 0, Enyimba fera face au Raja de Casablanca au complexe Mohamed V dans l'espoir de valider son ticket pour la finale. Coup d'envoi 19h30, 19h00, temps universel plutôt.
Et des violences à déplorer hier en Tunisie, Yacouba.
Malheureusement, Jacques, au moins 38 policiers ont été blessés dans des heures avec des supporters lors du match de qualification pour la finale de la Ligue des Champions entre l'Espérance de Tunis et Primeiro Agosto disputé à Tunis, selon le ministère de l'Intérieur. Battu 1-0 en Angola à l'aller, l'Espérance a renversé Primeiro Agosto 4 buts à 2 à Rades.
Quid de la Ligue des Champions en Europe?
Les Belges du FC Bourges reçoivent l'AS Monaco du nouveau coach Thierry Henry. Tottenham de l'Ivoirien Serge Aurier joue le PSG, le PSV au Camp Nou. Le Barça fera sans son maître à jouer Lionel Messi. Dortmund reçoit l'Atlético Madrid du Ghanéen Thomas Partey. Liverpool de Sadio Mané Mohamed Salah, mais sans le Guinéen Naby Keïta blessé, affronte l'Étoile Rouge de Belgrade à Anfield. Le choc de la soirée, c'est sans doute le match du Parc des Princes entre le PSG et Naples, avec les retrouvailles entre Carlo Ancelotti, ancien entraîneur du PSG d'une part, et Edison Cavani, l'attaquant parisien.
Yacouba Ouedraogo, je vous remercie.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
l'heure maintenant de passer à notre tranche magazine dans le monde aujourd'hui. Jacques Aristide toujours avec vous. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Au Congo-Brazzaville, les populations qui sont revenues de guerre dans le Poul tentent de se donner un nouveau destin. C'est dans une savane à perte de vue où poussent de gros arbustes que, par exemple, les déplacés de Missié-Missié dans le district de Mindouli ont choisi d'ouvrir avec des outils aratoires 7 km de route dans un sol sablonneux. Grâce aux vivres financés par le gouvernement américain, ces retournés de guerre du Poul veulent rapidement rendre accessible leur bassin de production au marché local. Le reportage de notre correspondant Arsène Séverin qui s'est rendu sur les lieux.
Ce bruit de scie à moteur pour couper les arbres rompt avec le silence lugubre qu'a imposé pendant 2 ans le conflit armé à Missié-Missié dans le district de Mindouli. Ici, les populations qui avaient fui commencent à revenir et il faut organiser une nouvelle vie. Le programme alimentaire mondial qui a l'habitude de leur fournir de la nourriture fait une nouvelle offre. Jean-Martin Bauer est le représentant du PAM au Congo.
Et les gens sont rémunérés en vivres. Ils reçoivent environ l'équivalent de 360 francs CFA par jour, par personne dans leur ménage, pour travailler sur ce site. Alors ils déblayent, ils désherbent, ils dessouchent. On a élargi le passage ici. Vous voyez maintenant, ça fait 4 mètres de large. Donc les véhicules peuvent passer là où le passage était impossible avant. Et donc ça désenclave environ 1000 personnes sur cet axe-là. Ça permettra l'évacuation des produits agricoles, l'accès aux hôpitaux, l'accès aux services sociaux. On pense que c'est un grand progrès pour la zone. Mais là où vous voyez ici, il y avait la forêt. Et maintenant, on a ce passage.
Pour Antoinette Ndigandiodo, ministre en charge de l'action humanitaire, c'est important d'être d'accord de ne plus se faire nourrir gratuitement.
Ce que nous faisons maintenant, c'est le relèvement, la réhabilitation des moyens de vie. Et la route est utile pour cette population pour aller de leur lieu de production vers là où ils peuvent vendre. Au lieu de continuer à donner l'assistance alimentaire gratuite, nous leur donnons l'assistance alimentaire contre le travail qu'ils vont faire.
Une logique accepte volontiers Philippe Mabouaka, chef du village Missié-Missié, mais aussi à la tête de la communauté des travailleurs sur cette nouvelle piste agricole.
Vraiment à plus de contour. Et ça va nous servir à faire rentrer des véhicules commerciales pour que ceux qui sont ici soient bien occupés. Produire les haricots, les gombos, les aubergines, toutes choses qu'on fait à Brazzaville, même européennes, on les fait vraiment. Les maniocs, les arachides, surtout que les haricots, hein, les gens qui vont à 300 sacs, 400 sacs. Mais donc, il se posait un problème de déplacement, parce que vous comprenez qu'une femme, quand elle quitte à Mokongoto pour venir à Missié-Missié, il faut qu'elle fasse au moins 5 heures de temps. Mais actuellement, maintenant, c'est 1 heure que tu es à Missié-Missié. Donc on est très content.
L'ambassadeur des États-Unis, Todd Haskell, a fait la visite de terrain et sait maintenant comment est utilisé l'argent du contribuable américain dans le Poul.
Maintenant, je crois que c'est un très bon projet, parce que les membres de la communauté, les jeunes, ils travaillent, ils reçoivent de la nourriture, mais aussi ils ont l'opportunité de faire des choses qui est bon pour la communauté. C'est un projet que tout le monde gagne. C'est gagne-gagne. Et je suis très fier que les États-Unis peuvent jouer un rôle avec des membres de la communauté pour le faire.
En 2017, les autorités avaient lancé un appel à fonds de 23 millions de dollars pour financer le programme de relèvement précoce. L'argent n'arrive toujours pas et il faut bien commencer avec le peu qui existe. De retour de Missié-Missié dans le Poul à Mindouli, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Comment attirer les investisseurs en Afrique en général et en Mauritanie en particulier ? C'est pour répondre à cette interrogation qu'une jeune entrepreneure mauritanienne a décidé de créer Hop Africa, une plateforme d'affaires très active dans le pays. John Linden, notre envoyé spécial à Nouakchott, a pris part à l'une de ses rencontres. Reportage.
Dans un hôtel de la capitale mauritanienne, un groupe d'hommes et de femmes d'affaires sont réunis pour parler d'opportunités d'investissement. À l'initiative de cette rencontre business to business, Hop Africa, une plateforme créée par cette femme, Maro Adia Diagana.
Hop Africa, c'est quoi? C'est une plateforme panafricaine de mise en relation d'affaires et de partenariat. Nos objectifs tournent autour de l'organisation des manifestations économiques à échelle nationale et internationale, l'organisation aussi des missions d'affaires.
Ce soir-là, c'est une délégation d'opérateurs économiques français qui est à l'honneur. Laurent-Pierre Castagnera, qui dirige une entreprise d'import-export et commercialise des produits européens sur le continent, justifie sa présence ici.
Après certaines expériences au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali et au Gabon, j'avais envie de découvrir le marché mauritanien, qui est un marché qui, ces dernières années, semble être un marché qui se dynamise, qui évolue, et il faut être présent. Et donc c'est la raison pour laquelle, avec le club que je représente ce soir, qui est le club le CBSOA, le club des entreprises Bordeaux-Afrique, nous avons souhaité en fait monter une mission pour rencontrer les entreprises mauritaniennes et trouver de nouveaux partenaires afin de développer nos business respectifs.
Et pour faciliter encore plus les relations d'affaires et de partenariat entre investisseurs étrangers et africains, la jeune entreprise mauritanienne nourrit des ambitions continentales.
On veut voir grandir ou naître dans chaque pays africain, que ce soit des pays francophones, anglophones ou lusophones, une filiale de Off Africa ou une représentation d'Off Africa qui permettra à ces entreprises de ces pays-là de venir adhérer à la plateforme et surtout de voir dans quelle mesure ils pourront tisser des partenariats avec d'autres entreprises de la plateforme.
Pour la promotrice de Off Africa, mettre ensemble les entreprises africaines sur une même plateforme permettra également à celle-ci d'avoir plus d'informations, plus de visibilité et des partenaires indispensables à leur développement. John Linden, VOA Afrique, Nouakchott.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Cap sur l'Ouganda à présent pour aller à la rencontre de Joanne Nalubega. Elle a grandi dans un orphelinat et souffrait régulièrement de paludisme, ce qui l'a justement motivée à créer une gamme de savons pour aider à lutter contre la maladie transmise par les moustiques. Son savon, elle le vend à un prix majoré dans des hôtels haut de gamme pour pouvoir subventionner le produit pour ceux de sa communauté locale qui en ont le plus besoin. Blanche Assanou nous en dit davantage.
À Pigi, dans un district du centre de l'Ouganda, John se rend dans son atelier. Elle y prépare les ingrédients nécessaires pour la fabrication de ses savons. John Nalubega, la fondatrice de Ouganic, nous donne plus de détails.
Nous mélangeons de l'huile d'olive, de l'huile de coco et puis d'autres huiles. Et enfin, on ajoute l'élément répulsif. Nous utilisons aussi de la citronnelle, de la lavande dans la composition du savon.
L'entreprise Ouganic a lancé ses activités grâce au soutien de l'Académie Social Innovation, une organisation basée à Pigi qui éduque les orphelins, les enfants des rues, les réfugiés et autres jeunes défavorisés. En plus de cela, John a su profiter de sa proximité avec la communauté locale pour connaître leurs besoins réels dans la lutte contre le paludisme. John Nalubega, fondatrice de Ouganic.
J'ai constaté qu'il y avait des solutions sur le marché, comme les aérosols et tout le reste, mais elles étaient plus destinées aux touristes. Pourtant, les gens qui en ont le plus besoin ne sont pas pris en compte. Alors je me suis dit que c'est dans cette direction qu'il fallait aller. Nous recherchions un produit auquel ils peuvent facilement accéder et un produit que chaque ménage pouvait utiliser. C'est pourquoi nous avons fabriqué un savon.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Ouganda a l'un des taux de transmission du paludisme le plus élevé au monde. Le paludisme représente également 40% des visites dans les centres de consultation externes, dans les établissements de santé publique. Pour les habitants de Pigi, l'utilisation du savon de Ouganic est un vrai soulagement, comme le témoigne Teddy Namirembe.
Avant de commencer à utiliser ce savon, mes enfants étaient atteints de paludisme. Le matin, ils avaient plusieurs marques de morsures causées par des piqûres de moustiques. Mais maintenant, ils ne sont plus mordus. Ils n'ont pas de marques sur leurs bras. Je ne me fatigue plus pour acheter des médicaments. Ce savon m'a beaucoup aidé.
John a reçu l'an dernier 5 000 $ du programme d'entrepreneuriat Tolu Elu Melu. Cette année, elle est candidate au prix Anzisha, un prix décerné aux jeunes entrepreneurs africains. Son objectif, réduire de 20% le taux du paludisme en Ouganda au cours des 5 prochaines années.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Nous vous en parlions un peu plus tôt dans le journal. Malgré la reconnaissance par l'Arabie Saoudite de la mort du journaliste Jamal Khashoggi dans les locaux de son consulat à Istanbul et l'arrestation de 18 personnes, l'affaire est loin de connaître son épilogue. Aujourd'hui, Ankara a demandé à ce que les personnes incriminées soient jugées en Turquie. Sur le rôle joué par ce pays dans l'internationalisation de cette affaire, Abdurrahman Dia a joint à Paris le professeur turc à la retraite, Ahmed İnsel.
La Turquie aurait pu être très très intransigeante dès le départ. Et je crois que Tayyip Erdogan a voulu à la fois ne pas du tout couvrir cette affaire, mais en même temps, laisser une marge de négociation avec l'Arabie Saoudite. Du coup, il joue la carte d'une révélation goutte par goutte, compte à compte, de ce que dispose la police turque comme information.
La Turquie veut quand même que les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête soient jugées en Turquie. Vous pensez que Riyad va l'accepter?
Non, pas du tout. Je crois que c'est un vœu pieux. D'ailleurs, je suis sûr que si jamais Riyad décidé d'envoyer les personnes incriminées, la Turquie aurait été encore plus gênée. Et là, c'est une demande qui est faite par pure forme, tout en sachant que ça ne va pas aboutir.
Quels sont les moyens de pression dont dispose Ankara? Après tout, l'Arabie Saoudite est très puissante dans le monde musulman et également sur le plan financier.
La Turquie, aujourd'hui, joue sur la crédibilité de l'Arabie Saoudite. D'ailleurs, cette stratégie de la Turquie a poussé l'Arabie Saoudite à reconnaître les faits, puisque, rappelez-vous, les premiers jours, l'Arabie Saoudite avait totalement nié et avait même annoncé que Adnan Khashoggi était sorti libre du bâtiment. Mais la Turquie a poussé, en révélant progressivement des faits, a poussé les pays occidentaux à prendre une position beaucoup plus exigeante vis-à-vis de l'Arabie Saoudite.
Et justement, les États-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé du retrait de visa des personnes incriminées. Quel impact cette mesure de retrait des visas peut avoir face aux intérêts financiers?
Aucun. Le retrait de visa n'a aucun impact puisque nous savons que maintenant ces 18 personnes ne quitteront jamais l'Arabie Saoudite parce qu'ils risquent d'être arrêtés n'importe où. Mais par contre, par exemple, le retrait des participations au forum organisé à l'Arabie Saoudite a eu des impacts, manifestement. La décision allemande de refuser les livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite probablement va créer une pression d'opinion publique qui fait que les livraisons d'armes vers l'Arabie Saoudite vont être plus difficile et je crois que tous les pays en question dans les pays occidentaux réfléchiront encore plus aujourd'hui.
On écoutait Ahmed İnsel, professeur à la retraite de l'université de Galatasaray en Turquie. Il était en ligne de Paris. Et voilà, le monde aujourd'hui prend fin ici. Restez bien branchés sur VOA Afrique, car nous sommes en train de suivre pour vous cette grosse actualité ici aux États-Unis. Ces colis suspects, d'ailleurs, dans quelques instants, Nanit Talani va vous donner d'autres détails dans son tour d'horizon de l'actualité. Voilà, la mise en onde a été assurée par Sims Lumami. C'était Jacques Aristide au micro. Je vous souhaite une excellente soirée sur VOA Afrique. À très bientôt.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore, sans oublier sur Onde Courte, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
VOA Afrique, les